VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Henri Francisque. Au sommaire en ce lundi 26 janvier 2015.
Centrafrique, le ministre des Sports kidnappé, une plateforme de groupe armé appelle les ravisseurs à libérer Armel Ningatoloum Sayo sans condition.
Nous n'avons pas encore déterminé les responsabilités. D'ores et déjà, je veux lancer un appel pour qu'il puisse libérer le ministre Sayo.
Pelange Koy, rapporteur général du G7 Siriri.
RDC, le Parlement adopte la loi électorale sans la disposition controversée qui aurait permis à Joseph Kabila de rester au pouvoir avant la fin de son mandat.
Nigeria, psychose à Maïdougouri après l'attaque de Boko Haram.
Nous sommes en train de mesurer de réfugiés qui ont fui dans toute la ville où il y a eu des problèmes. Ma maison est pleine, il n'y a même pas où vous mettez les pieds.
Un enseignant de la capitale de l'État de Borno et le secrétaire d'État américain John Kerry, arrivé hier dans le pays, a dit que Washington soutenait toujours Abuja contre le groupe extrémiste.
La Rado dénonce l'arrestation du rappeur mauritanien Amada Sidibouna.
Le Bénin s'est doté d'un code de l'information et de la communication.
Et Barack Obama poursuit sa visite en Inde qui commémore ce lundi la première constitution de l'indépendance du pays. Mais avant tout, le journal.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Centrafrique, Armel Ningatoloum Sayo, a été kidnappé dimanche matin par des hommes armés dans le 8e arrondissement de Bangui, à Alberton.
Nikès Daniel Sayo, l'épouse du ministre qui se trouvait avec lui, rapporte qu'il a été enlevé vers 9h30 sur l'avenue Mbaïkoua, au retour du culte. Selon Madame Sayo, les ravisseurs, des anti-balaka présumés, les ont coincés avec une voiture jaune non immatriculée. Quatre hommes armés de Kalachnikov se sont alors rués sur eux, emmenant de force le ministre. Ils ont pris aussi des téléphones portables et un sac à main. Martial Louba, frère cadet du ministre, également présent sur les lieux, a précisé que les ravisseurs avaient pris la direction de Boyrab, un quartier du nord, bastion des anti-balaka. La nouvelle s'est vite répandue dans Bangui et a suscité de nombreuses interrogations. Le G7 Siriri, une plateforme de plusieurs groupes armés, appelle les ravisseurs à libérer sans condition M. Ningatoloum Sayo. Le rapporteur général de la plateforme éloge Doctrouvé Koyi.
C'est un acte qu'on ne peut que déplorer. Nous n'avons pas encore déterminé les responsabilités. Qui exactement est responsable de ce kidnapping? D'ores et déjà, je leur lance un appel fraternel pour qu'ils puissent, par la grâce de Dieu, par l'amour que nous avons pour notre pays, libérer le ministre Sayo, qui est l'un des membres du G7, qui est ministre, notre ministre, ministre du département de la jeunesse.
Dans un communiqué, le gouvernement centrafricain a dénoncé cet enlèvement. Il a instruit le parquet de Bangui d'ouvrir une enquête et appelé la population à signaler la position des ravisseurs. Ces derniers n'ont pour l'instant formulé aucune revendication.
En RDC, le Parlement a adopté une nouvelle loi électorale ne contenant plus la disposition qui aurait pu permettre au président Joseph Kabila de proroger son mandat après son expiration en 2016. Ce projet de loi était à l'origine de violentes manifestations de la semaine dernière. Toutefois, selon l'AFP, la nouvelle loi n'inclut pas une clause proposée par les sénateurs et faisant obligation d'organiser la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, la disposition litigieuse étant supprimée, le problème est réglé.
Cette disposition est considérée, suite à cette campagne complètement diffamatoire de nos positions, comme tendante à violer la Constitution. Retirons-la, nous n'avons eu aucune difficulté à faire cela, et nous l'avons fait, et nous sommes arrivés donc à convaincre l'opinion que nous n'avions aucune intention d'exercer le pouvoir au-delà du terme constitutionnel. Voilà tout. Le problème est résolu et le Parlement est même parti en vacances.
L'opposition et divers autres groupes ont promis de marcher lundi. À quoi faut-il s'attendre de ce côté?
Ils n'ont pas prévu la police qu'ils voulaient marcher. Ils n'ont pas annoncé même l'itinéraire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, la police ne devait pas même commencer cette marche-là. Donc, je pense que cette marche n'aura pas lieu.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, joint Kinshasa par Timothée Donangmaï.
C'est la psychose à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria après la tentative infructueuse de Boko Haram d'investir la ville. Les combats qui se sont déroulés dans les faubourgs entre les militants et l'armée nigériane ont contraint de nombreux habitants à chercher refuge chez des parents et des amis dans les quartiers plus au centre de la capitale de l'État de Borno. Timothée Donangmaï a joint sur place un enseignant qui n'a pas souhaité être identifié.
On n'a pas pas d'informations précises parce que tout le monde est serré chez lui. Donc l'information parfois perdue, qui circule de bouche à oreille. Mais à la télé, il n'y a pas grand-chose. Je suis en train de loger des réfugiés qui ont fui dans toute la ville où il y a eu des problèmes. Ma maison est pleine. Il n'y a même pas où mettre les pieds. On n'a pas encore payé le salaire, donc vous voyez le problème déjà.
En cas de nécessité, est-ce qu'il serait possible de quitter Maïdougouri pour aller ailleurs?
Le problème, c'est que nous sommes en période d'examen. Et donc, nous étions obligés de rester sur place. Et voilà la situation qui se complique. Si l'administration demande à ce qu'on ferme, toutes les routes sont fermées. On ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer à Maïdougouri. Les routes sont fermées. Je ne sais pas comment sera demain.
Un enseignant de Maïdougouri s'exprimant sous anonymat. Le secrétaire d'État américain John Kerry, arrivé dimanche à Lagos, a déclaré que les États-Unis continueront de soutenir l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. M. Kerry a rencontré les deux principaux candidats à la présidence du pays, le président sortant Goodluck Jonathan et l'opposant Muhammadu Buhari, à l'approche du scrutin prévu le 14 février.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié l'apparente décapitation de son compatriote Haruna Yukawa par État islamique d'acte ignoble et inadmissible. Il a réitéré hier sa détermination de ne pas céder au terrorisme et exigé la libération immédiate du second captif japonais, le journaliste indépendant Kenji Goto. Ces déclarations font suite à la publication par le groupe intégriste d'une vidéo de Kenji Goto tenant à la main des photos semblant montrer le corps décapité de Haruna Yukawa. Goto dit qu'il sera remis en liberté en échange de la libération de Sajida al-Rishawi, une femme emprisonnée en Jordanie, après avoir tenté de commettre un attentat suicide.
Barack Obama poursuit sa visite en Inde. Il est le premier président américain à assister à New Delhi aux célébrations de la fête de la République qui commémore la première constitution de l'Inde indépendante. La veille, M. Obama avait annoncé que le premier ministre indien Narendra Modi et lui étaient parvenus à une percée concernant un accord nucléaire indo-américain en panne depuis 2008. Washington avait signé avec New Delhi à l'époque un accord prévoyant la fourniture de technologies nucléaires civiles américaines à l'Inde. Mais l'application de la transaction avait été entravée par la loi indienne rendant les compagnies construisant le matériel requis responsables en cas d'accident. Les deux parties ont contourné la difficulté hier en créant un fonds d'assurance couvrant les risques encourus.
Crise en Ukraine, Washington et les dirigeants européens menacent Moscou de nouvelles sanctions après les attaques à la roquette des rebelles pro-russes qui ont fait au moins 30 morts et plus de 80 blessés hier dans le port de Mariupol. Depuis New Delhi, le président américain Barack Obama a souligné hier son intention de tout faire, hormis une confrontation militaire, pour augmenter la pression sur la Russie. Mais de son côté, Moscou accuse Kiev d'être responsable de la nouvelle flambée de violence dans l'est de l'Ukraine.
En Grèce, victoire décisive du parti anti-austérité Syriza aux élections générales d'hier. Mais cette formation de gauche et son leader Alexis Tsipras ne sont pas encore sûrs d'obtenir la majorité absolue des sièges, 151, au Parlement. S'ils n'obtiennent pas ce score, ils devront former un gouvernement de coalition. Pour le moment, Syriza l'emporte avec environ 35% du vote. Son plus proche concurrent est le parti conservateur de la Nouvelle Démocratie avec 29%. Selon les observateurs, la victoire de Syriza devrait conduire à un bras de fer entre les créditeurs de la Grèce qui exigent des mesures d'austérité en échange de nouveaux fonds et un gouvernement grec déterminé à obtenir de meilleures conditions de prêt.
Voilà pour les nouvelles. À présent, le journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bienvenido a la cantina, bienvenido en bolo, olé, olé, olé.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique. Incroyable scénario dans le groupe A, qui l'eût cru, le Congo et la Guinée équatoriale qualifiés pour les quarts de finale. Le Nzalang National réédite donc l'exploit de 2012. Comme lors de la CAN organisée à domicile, les Équato-Guinéens se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Ils l'ont fait avec brio et grâce à leur impeccable gardien Ovono. Les Gabonais, eux, vont longtemps reparler du pénalty sifflé peu avant l'heure de jeu par l'arbitre ivoirien de la rencontre, Désiré Doué Noumandié. Balboa transforme et quelques minutes plus tard, c'est Edou qui donne la victoire aux Équato-Guinéens 2-0. Les Panthères gabonaises disent adieu à la compétition. Grosse déception, vous l'imaginez, de l'attaquant Romaric Rogombe.
Bon, vous savez, c'était un match compliqué. On savait que ça devait être compliqué avec le pays organisateur parce qu'ils avaient l'arbitre derrière. Parce que je crois savoir que sur ce penalty, il n'y a jamais penalty. Un arbitre qui officie jusqu'à la Coupe du Monde ne peut pas siffler ce genre de penalty. Maintenant, c'est des choses qui arrivent. On a encaissé un premier, il fallait pousser pour essayer d'égaliser. On a pris un deuxième. C'est le football. Et on a eu des occasions, on a eu des possibilités de marquer en première mi-temps. On a eu deux occasions où on pouvait tuer le match, on n'a pas mis. Et le football, c'est juste sur des petits détails. On n'a pas mis et on est revenu en deuxième mi-temps. Il y a l'arbitre qui s'y fait un penalty inexistant. Maintenant, c'est les choses qui arrivent.
Romaric Rogombe, attaquant gabonais. Autre sensation de la soirée à Bata, cette fois-ci, le Congo termine premier du groupe A avec une nouvelle victoire, cette fois contre les vice-champions d'Afrique, les Burkinabés. La tête basse, les étalons quittent la compétition. En fait, dans ce match, tout s'est joué en deuxième mi-temps. À la 51e minute de jeu, Bifouma inscrit son second but de la compétition. Bansé réussit à égaliser en fin de match, mais les Diables Rouges trouvent les ressources morales. Nguessi vient battre le portier burkinabé et donne la victoire aux Congolais. Score final 2 buts à 1. Statistique incroyable pour Claude Leroy, le sélectionneur du Congo-Brazzaville. C'est la 7e fois en 8 Coupes d'Afrique des Nations qu'il franchit le premier tour. Un vrai sorcier blanc, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La brillante qualification du Congo pour les quarts de finale remet en selle une sélection qui a pourtant joué les épouvantails sur le continent dans les années 60-70, avec pour principal fait d'armes le titre enlevé contre toute attente à Yaoundé en 1972. C'était l'époque de Mbemba Tostao, Bono le Sorcier, Ninga Pépé et autres François Mpelé. En se qualifiant en compagnie de la surprenante équipe de Guinée équatoriale, le Congo déjoue les pronostics au détriment du Burkina Faso et du Gabon et attire l'attention sur son ascension récente, pourtant prévisible depuis les succès africains en club de l'AC Léopard de Dolizé. Par la suite, l'équipe s'est forgée une personnalité lors de ses performances remarquées pendant les tournois de la CEMAC et surtout le CHAN sud-africain. Mais le véritable déclic de la sélection s'est produit à l'arrivée de l'entraîneur français Claude Leroy, un prospecteur hors pair qui a su apporter au groupe sa science tactique et un culot indéniable que le champion sortant nigérian et les adversaires du groupe ont pu vérifier à leur dépens. Nul doute que fort de son statut d'outsider qui lui enlève toute pression, le Congo de Claude Leroy n'a pas fini de surprendre. À demain.
À suivre ce lundi les derniers matchs du groupe B en simultané à 18h temps universel. La Zambie, dernière du groupe avec un point, affronte le Cap-Vert. Les deux équipes ont impérativement besoin d'une victoire pour accéder au quart de finale. La Tunisie en tête du groupe avec 4 points peut se contenter d'un match nul face à la RDC. Mais les Léopards voudront à tout prix se surpasser. On retrouve à Bata le reportage de Thierry Kamundi.
S'ils veulent poursuivre l'aventure dans cette CAN, les Léopards doivent absolument l'emporter face à des Aigles de Carthage à qui un nul suffit. Pour Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC, son équipe va attaquer le match à 100 à l'heure.
On doit attaquer ce match pied au plancher et pour avoir un seul objectif, c'est la victoire. On n'a pas à calculer, c'est la victoire. On a mis en place un 4-3-3 et un 4-4-2. Donc on va essayer d'utiliser les deux systèmes pour agresser cette équipe dans le bon sens du terme et ramener le résultat.
Le 11 congolais sera privé de son capitaine. Blessé face au Cap-Vert, Youssouf Mouloumbou en a pour une semaine. Il espère revenir dans le groupe après la qualification que devraient arracher ses coéquipiers.
Au vu du scanner, donc je pense que d'ici une semaine, je pourrai jouer. Donc ça veut dire qu'il va falloir que mes coéquipiers gagnent face à la Tunisie. Comme ça, je pourrai rentrer dans le groupe et aider, pourquoi pas, aller jusqu'en finale.
Dans le camp des Tunisiens, pas question de se considérer en situation favorable. On va jouer ce match pour le gagner, a déclaré le sélectionneur Georges Lekens.
On veut gagner ce match. Ce sont des matchs qui dépendent du temps, parfois la chance. Vous avez vécu ça avec votre équipe, avec le Congo. Vous êtes une équipe forte.
Depuis Bata, Thierry Kamundi Kafuti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet www.voafrique.com.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Nathalie Barge, pour les dossiers du jour. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme dénonce l'arrestation arbitraire du jeune rappeur mauritanien Amada Sidibouna. Il est l'un des 5 membres du groupe Ouled Le Bled, ayant sorti un single intitulé « Geyem » qui signifie « dégage ». Les 4 autres membres du groupe de rap ont dû fuir pour se réfugier à Dakar. Idriss Fall a joint Aboubakr Modj, secrétaire exécutif de la RADO.
C'est un jeune rappeur qui a été arrêté depuis mardi dernier, détenu à la prison centrale de Nouakchott. Les membres du groupe également qui ont fui la Mauritanie nuitamment sont arrivés au Sénégal. C'est le célèbre groupe qui s'appelle DAD qui dénonçait les pratiques de corruption et de malgouvernance en Mauritanie, la restriction des libertés fondamentales, qu'ils avaient sorti un single intitulé « Dégage ». À la suite de ce single, les proches collaborateurs du président de la République mauritanienne les ont approchés pour dire qu'il fallait qu'ils fassent sortir un autre single faisant les louanges du président de la République en guise d'échange par rapport à la libération de leurs collègues et même moyennant des sommes colossales d'argent et des dotations de véhicules. Ayant refusé cela, ils ont été donc tous poursuivis et finalement ils ont fini par quitter. Mais leur camarade qui se trouve aujourd'hui détenu a été donc victime d'un complot. Le premier conseiller du président de la République, Abdelaziz, son fils même, ont usé de leur pouvoir pour qu'il soit détenu. Ce que nous considérons effectivement comme une détention arbitraire. C'est une machination parce que tout le monde sait aujourd'hui que la situation des droits humains en Mauritanie est une situation fort préoccupante.
Biram Daoud Abeid, leader du mouvement abolitionniste IRA, a été condamné à 2 ans de prison.
Suite simplement à une mission qu'ils effectuaient dans la vallée du fleuve Sénégal aux environs de Rosso Mauritanie, où ils dénonçaient également les pratiques d'esclavage. Depuis le mois de novembre dernier, ils étaient détenus, ils n'étaient pas jugés. Ils ont été jugés la semaine dernière, ils ont été condamnés à des peines de 2 ans de prison ferme. Ce qui montre le visage aujourd'hui du régime mauritanien, qui est un régime très répressif.
Le président est le président en exercice de l'Union africaine.
Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a été légitimé par des élections à la suite de ce coup d'État. Cela même est un précédent dangereux pour l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, une fois que vous avez pris le pouvoir par la force, vous êtes écarté de la course des élections. Mais cette fois-ci, nous avons une mauvaise jurisprudence en Mauritanie. Parce que ce n'est pas le cas au Mali, quand il y a eu le coup d'État avec Sanogo, on l'a écarté. Ce fut le cas également en Guinée avec Moussa Dadis Camara. Mauritanie constitue une exception à la règle.
Aboubakr Modj, secrétaire exécutif de la RADO.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
La Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme a organisé ce week-end à Bissau une manifestation contre les massacres perpétrés par le groupe Boko Haram au Nigeria. Des milliers de personnes y ont assisté, dont l'ambassadeur du Nigeria, Ahmed Adams, et le premier ministre Domingos Simoes Pereira. Notre confrère Noua Mankali a tendu son micro à des manifestants sur place.
Stop Boko Haram, un slogan utilisé par les manifestants depuis le début de la marche qui a commencé à l'aéroport international Oswald Vieira jusqu'au palais présidentiel, soit 10 km de marche.
Stop Boko Haram! Stop Boko Haram! Stop Boko Haram!
Face aux milliers des manifestants, Claudia Tavares Viegas, porte-parole de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains, n'a pas caché son inquiétude face à cette attaque du groupe Boko Haram.
La Ligue Bissau-Guinéenne est tellement choquée avec les récents événements au Nigeria, les attentats de Boko Haram. À cause de ça, on a décidé de faire une marche de solidarité. La marche a été organisée avec la Direction générale des sports. On est ici aujourd'hui pour montrer au monde monde, à l'Afrique, que nous sommes tellement solidaires avec la situation, que nous sommes tellement choqués. On ne doit pas être insensible et indifférent à ce type de situation. C'est à cause de ça qu'on a décidé d'organiser la marche. Et nous remercions à tous pour la participation. Je dois dire que c'était une participation massive. Ça démontre que les Bissau-Guinéens sont un peuple solidaire. Les Africains en général sont un peuple solidaire et je pense que ça a été bien marqué aujourd'hui.
Présent à la marche, l'ambassadeur du Nigeria dans le pays, Ahmed Adams, a considéré que cette manifestation montre la solidarité de la population bissau-guinéenne à celle du Nigeria.
Oui, on est très content pour ça parce que ça montre que la Guinée-Bissau, c'est derrière Nigeria dans le problème de Boko Haram. On est très content pour il nous a bien soutenus et ça montre qu'il y a de l'unité entre les pays membres de CEDEAO. Donc, on est vraiment très, très content et on remercie tous les peuples de Guinée-Bissau, le gouvernement de Guinée-Bissau.
C'est la deuxième manifestation antiterrorisme promue par la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme après celle contre l'attaque sur le journal français Charlie Hebdo. Nouaman Kali Bissau, La Voix de l'Amérique.
Le Bénin dispose désormais d'un code de l'information et de la communication réunissant tous les textes qui régissent la presse. Peggy Ludovic Dagba nous livre les réactions des professionnels de la presse et des politiques béninois recueillis après le vote du code.
L'exercice de la profession de journalisme pourra désormais se faire au Bénin avec plus d'efficience et d'objectivité. Ceci grâce au vote par l'Assemblée nationale du Code de l'information et de la communication, la suppression des peines privatives de liberté à la suite d'un grand et long combat, selon le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochim.
Grâce à l'appui de OSIWA, nous avons pu éditer un document de plaidoyer à l'endroit des députés. Et ce document a été distribué à tous les députés et nous sommes déplacés personnellement pour aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré, fait des séances de travail plusieurs fois avec le président de la commission en charge de l'éducation. Nous avons rencontré plusieurs fois la présidente de la commission des lois. Et nous avons rencontré d'autres présidents de groupes parlementaires. Nous avons à cette séance-là expliqué la nécessité de doter le Bénin. Parce que voter un code dépénalisé, ce n'est pas pour faire du plaisir aux journalistes. C'est pouvoir repositionner le Bénin. Parce que lorsque nous disions que le Bénin était coté parmi les pays démocratiques en Afrique, la non-tenue des élections a fait que dans la sous-région, on a commencé par douter un peu sur notre démocratie. Il était important que nous puissions profiter de ce repositionnement par rapport au vote d'un code dépénalisé pour replacer le Bénin dans le contexte des nations démocratiques parce qu'aujourd'hui, on ne saurait qualifier un État démocratique en occultant les performances par rapport à la liberté de presse.
C'est donc une victoire à l'arraché pour les journalistes béninois. Mais de gros risques demeurent. Et la présidente de la commission des lois ne s'est pas faite prier pour élever le plus gros à Kholou Hélène Keke.
Quand nous avons fait la commission ici, on disait qu'il ne fallait pas enlever les peines privatives de liberté. Le risque, je vais vous le dire, quand vous enleverez les peines privatives de liberté, les organes de presse vont être fermés ici à cause des condamnations énormes, des dommages-intérêts énormes, et vous n'aurez plus de journaux dans ce pays. Parce que les juges vont donner des dommages-intérêts par pelletée. En plus des amendes, les dommages-intérêts aux plaignants seront lourds et le journal sera fermé.
Pour éviter ces déconvenues, il faut plus de responsabilité de la part des professionnels des médias, selon Gérard Agoyan, secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin.
J'appelle à une plus grande professionnalisation, à plus de rigueur, parce que si on observe les règles, il n'y a pas de tabou à aller tomber dans les dérapages qui vont nous amener à des peines et SO. Si l'accès aux sources d'information est libéré, il n'y a pas de raison que le nid des dérapages soit encore créé.
Ce code n'attend plus que la signature du chef de l'État béninois pour commencer à produire ses effets de droit. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Les migrants africain. En Afrique du Sud, ont organisé hier à Johannesburg une manifestation pour dénoncer les actes de xénophobie dont ils se disent victimes. Ils ont adressé une lettre ouverte aux autorités sud-africaines exprimant leur inquiétude. Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine, l'ONG initiatrice de la lettre.
La communauté migrante est assez paniquée parce que les gens ne savent pas s'il faut faire confiance à la police. Parce que quand un migrant appelle la police va répondre après peut-être 2 heures du temps. Quand on va finir peut-être de l'abattre, peut-être de brûler son petit commerce. Il y a un manque de confiance entre la police et les migrants. Les 2 derniers jours, je vous assure, nous, en tant que diaspora africaine, on a reçu près de 700 coups de fil de gens qui étaient paniqués, qui ne savent pas est-ce qu'ils doivent quitter leur lieu d'habitation. Donc, nous, on a rassuré. Et même cette marche qu'on a eue ce soir à Yoville, le quartier qui abrite près de 35 différentes communautés africaines, c'est pour rassurer les gens que la police va vous protéger. On a parlé longuement avec la police. Pour dire protéger les gens, parce que quand vous avez appris que malheureusement il y a un migrant qui a abattu un Sud-Africain, c'est justement parce que le migrant n'est plus sûr si la police peut le protéger. Et quand c'est comme ça, les gens se protègent avec n'importe quoi.
Vous avez adressé une lettre ouverte aux autorités sud-africaines, vous avez aussi organisé une marche. Quel écho ont eu ces initiatives?
On a eu pas mal de réponses au jour d'aujourd'hui. On attend encore, peut-être demain, on aura encore des réponses par rapport à ça. Mais aujourd'hui, toute la journée, notre téléphone n'a pas arrêté de sonner. On espère que le gouvernement sud-africain va avoir aussi la réponse bien appropriée par rapport à cette situation-là. Parce que c'est ce que nous recherchons. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire du bruit, mais notre objectif, c'est que les migrants vivent dans une communauté, qu'ils vivent en paix.
Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine, était joint à Johannesburg. La Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors la Sierra Leone pense pouvoir se remettre de l'épidémie d'Ebola seulement si sa dette est annulée.
C'est la substance du plaidoyer hier de son ambassadrice auprès de l'ONU à Genève. Yvette Stevens, que cite l'AFP, a dit que le seul espoir de voir son pays se relever est que le FMI passe l'éponge sur sa dette. D'autres fonds seront nécessaires pour relancer l'économie sierra-léonaise, a-t-elle précisé. La Sierra Leone est le pays le plus touché par l'épidémie d'Ebola, avec plus de 10 000 cas enregistrés, dont plus de 3 000 décès. Conséquence, le pays connaîtra une récession de 3% cette année, alors qu'il tablait sur une croissance de 8,9% avant la crise sanitaire. Selon la Banque mondiale, la Sierra Leone a perdu 920 millions de dollars du fait de l'épidémie.
Et une grosse facture céréalière pour l'Algérie en 2014.
Le pays a importé 12,5 millions de tonnes de céréales pour 3,540 millions de dollars, soit une hausse de 12% selon les services de douane algériens que cite l'AFP. Cette facture s'explique notamment par les subventions accordées par le gouvernement algérien au prix du pain, entre autres.
L'Union européenne devra composer avec un nouveau dirigeant en Grèce et elle s'y prépare.
Victorieux des élections d'hier, Alexis Tsipras, farouche adversaire des mesures d'austérité, exige une restructuration de la dette nationale qui représente 117% du PIB. Un signal positif pour les Grecs, le ministre belge des Finances, Johan van Overfeld, estime qu'il y a une marge de discussion sur la dette grecque avec les autres pays de la zone euro.
Merci beaucoup Timothée Donangmaï pour la Minute Éco.
Salut les amis, Roger Mountou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Un Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, à la console John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon lundi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.